Bonjour. Le message qui va suivre vous est présenté par l'église La Maison du Bâtisseur, avec pour orateur Luc Ondias, pasteur principal. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez richement édifié en Christ. Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par téléphone au 04 65 60 56, par mail en nous écrivant à contact@lamaisondubâtisseur.com ou en vous rendant sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Nous vous souhaitons une agréable écoute. Que Dieu vous bénisse.
Pour nous rappeler que cette année est une année très importante pour nous. Et le Seigneur nous a beaucoup montré beaucoup de choses qui vont arriver cette année. On doit se préparer. Dis avec moi, on doit se préparer. La qualité de ta préparation va déterminer ta performance dans la vie. Un athlète comme Usain Bolt, pour courir le 100 mètres pendant 9 secondes, il doit se préparer pendant 4 ans. Parce que les 9 secondes là, 9 secondes pour toi, c'est le temps que tu ouvres et fermes les yeux. Lui, 9 secondes là, ça change sa vie. Hein. Il devient champion du monde en 9 secondes, c'est fini. Hein. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi, quand Usain Bolt gagne et qu'il est sur la première marche du podium, pourquoi il pleure? Tu ne t'es jamais demandé ça? Il y en a qui disent qu'il pleure parce que vraiment, c'est la récompense de beaucoup d'efforts. Lui, c'est pas ça, c'est pas pour ça qu'il pleure. Il savait qu'il allait gagner. C'est pour ça qu'avant la course, il sait déjà qu'il va gagner. C'est pour ça qu'il vous chante là, en faisant son truc là. Il sait qu'il va gagner, tu vois. Donc, quand il arrive sur le podium, il pleure pas pour ça. Il pleure à cause de tous les contrats publicitaires qu'il va avoir, à cause de tout l'argent qui va tomber. C'est à cause de ça qu'il pleure. Il pleure de joie tellement il est content. Mais ça, il a dû se préparer avant. Et 2015, on doit se préparer dans la prière, on doit se préparer dans le travail, on doit planifier à l'avance tout ce qu'on va faire, etc., etc. Et c'est pour ça qu'on a mis le Seigneur nous a mis à cœur de faire le séminaire objectif. On va pas juste parler d'objectif, d'accord? C'est objectif. Comment entrer en possession des promesses divines en 2015? Il y a des choses, tu y as droit, c'est à toi. Il y a des bénédictions qui sont censées arriver au courant de l'année dans ta vie. Ce sont des bénédictions et des grâces que tu es censé expérimenter. Mais tu peux les rater à cause simplement d'une mauvaise attitude. Il y a des opportunités, par exemple, je dis toujours aux jeunes, et même aux adultes, l'histoire d'arriver en retard, là, faites attention à ça. C'est un truc simple et insignifiant. Je viens, cool, quoi. Mais tu sais pas que tu peux rater une opportunité dans ta vie juste à cause d'un retard. Tu peux rater un emploi qui aurait pu changer ta vie juste parce que tu es arrivé en retard à l'entretien. Tu peux rater un rencard avec une femme parce que tu es arrivé en retard alors que c'était la femme de ta vie. Tu peux rater une porte qui devait s'ouvrir juste parce que tu n'étais pas là. Tu peux rater une prophétie qui t'était destinée juste parce que tu es arrivé en retard. Vous avez déjà vu Dieu arriver en retard dans la Bible? Dieu n'arrive jamais en retard. Il est toujours à l'heure. Jésus-Christ était à pied, mais il était toujours à l'heure. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ce sont des choses simples. D'accord? Ce sont des choses simples. Et c'est ce que Salomon appelle dans le livre des Proverbes la discipline. Dis avec moi la discipline. Quand tu vas dans le monde, les gens qui te parlent de succès et de réussite, l'une des premières clés de la réussite qu'ils te mettent en avant, c'est la discipline. Les gens qui réussissent et qui vont loin dans la vie, ce sont les gens qui sont disciplinés. Disciplinés dans tout ce qu'ils font. Par exemple, il y a quelques jours, il y a quelqu'un qui était chez moi. Elle était venue dormir chez nous à la maison. Et puis, elle m'a dit, tu te lèves tôt, hein.
Tu te lèves vraiment tôt. Comment tu fais? Et je lui ai dit, moi, je me lève tôt. Tu as dit, moi, je me lève à 4 heures du matin, je suis déjà debout. Parce que se lever, dormir jusqu'à 9 heures, 10 heures, tu te lèves, le temps de prendre ta douche, de manger, c'est fini les midis. Tu as déjà perdu la moitié de ta journée. Donc, moi, j'aime me lever tôt. Parce que j'aime le calme. Bon, enfin, c'est difficile d'avoir du calme dans les cités de chez nous, là où les gens ont des coqs, des chiens, enfin, toutes ces choses-là. Mais j'aime me lever tôt parce que j'aime préparer ma journée à l'avance. Amen. Donc, c'est très, très, très important de faire attention à ces petites mauvaises habitudes-là qui s'ingèrent dans notre vie-là. Et en fait, c'est ça qui pourrit notre vie. Toutes ces petites mauvaises habitudes qu'on a. Par exemple, l'histoire, par exemple, de donner des excuses. Regardez bien dans la Bible, les gens qui donnent des excuses, ce sont des gens que Dieu, pour qui Dieu se mit en colère. Dieu envoya son serviteur, va inviter les gens pour mes noces, et ils donnèrent tous des excuses. Moi, je dois aller marier ma fille, moi, je dois aller paître mon champ, moi, je dois aller faire ça. Le roi se mit en colère à cause des excuses. Moïse, Dieu lui dit, va délivrer Israël, il donne tout en plein d'excuses. Seigneur, je suis bègue, Seigneur, je ne peux pas. Et là, puis Dieu se mit en colère. Parce que ce sont des petites choses qui font qu'en tant que chrétien, on ne prospère pas. On est là tous les ans, chaque année dans l'église, et on voit que nos vies ne changent pas. Pourtant, nous sommes en Christ, on nous parle tout le temps d'héritage et de promesses, mais on ne voit pas les choses arriver dans notre vie. On prie, on prie, on prie, on veille, on veille, on veille. Mais, par exemple, une fois j'ai rencontré quelqu'un, il avait un entretien très, très, très important pour sa carrière professionnelle. Et la veille, il va à la veillée de prière à l'église. Faut pas dire amen, faut rire seulement. Il finit la veille de prière à 6h, le temps d'arriver chez lui il est 7h30, l'entretien est à 9h. Donc il arrive chez lui, le temps de se laver, il dit bon, je suis vraiment fatigué, je vais dormir une minute. Il dort, il se réveille, il est midi, il a raté l'entretien. Ça, et puis il dit, oh Seigneur, Seigneur, il ne dit pas mon nom dans cette histoire là. Ça c'est ce qu'on appelle mauvaise attitude. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. La prière. Par exemple, il y a quelqu'un un jour qui me dit, « Pasteur, moi, je n'arrive pas à prier tôt le matin. Tu te couches à quelle heure? Je me couche à 23h. Mais comment tu peux te lever à 5h pour prier si tu te couches à 23h? C'est normal que tu sois fatigué. Couche-toi tôt. Couche-toi à 20h, à 21h. Donc, il faut ranger sa vie parce que le succès est prévisible. Quand tu vois quelqu'un qui a des habitudes, tu sais qu'il va réussir. Quand tu vois un étudiant qui étudie tout le temps, il est réglo dans ses temps d'études. Il est studieux. Ce n'est pas étonnant qu'il réussisse à l'examen, parce qu'il était préparé pour ça. C'est pour ça qu'il y en a qui sont toujours premiers de la classe, il y en a qui sont toujours derniers de la classe. Parce que le dernier, il fait tout le temps les mauvaises choses. La vie est simple. Dis-moi, la vie est simple. Voilà. Tu vois, donc même ta relation spirituelle avec le Seigneur, elle doit être réglée. Par exemple, quelqu'un dit, je n'arrive pas à lire la Bible le matin, mais comment, à quel moment tu la lis? Est-ce que tu as des heures? Ma femme est là, vous pouvez lui demander tous les matins, à la même heure, je me lève et je suis en train de lire la parole. Parce que j'ai des journées chargées, donc il faut que j'ai toujours un peu du temps pour moi, pour me consacrer à la parole. Sinon, qu'est-ce que je vais venir vous raconter ici le dimanche? Il faut que je trouve du temps. Donc si je n'ai pas ce temps-là, si je ne me donne pas ce temps-là, je ne peux pas avancer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'année 2015, elle se prépare. Les gens crient bonne année, bonne année, bonne année, mais ils ne préparent pas leur année. Ils ne savent pas ce qu'ils vont faire de leur année. Il y a le travail, ils cherchent de l'argent, etc. Mais concrètement, ils ne préparent pas leur année. Et c'est comme ça qu'avec le temps, j'ai compris pourquoi les riches sont toujours plus riches et les pauvres sont toujours plus pauvres. Parce que le riche, c'est quelqu'un qui a des habitudes. Par exemple, lire. Combien de livres tu lis dans l'année? Combien de livres tu lis? À part lire la Bible, est-ce que tu lis d'autres livres? Lire des livres qui t'instruisent. Tu as besoin d'argent, mais combien tu lis de livres qui parlent de l'argent? Combien lis-tu de livres qui parlent de comment on gagne de l'argent? Tu veux construire une entreprise, combien de livres lis-tu qui parlent de bâtir une entreprise et de la faire prospérer? Tu veux te marier et tu ne veux pas avoir de problème dans ton mariage, combien de livres lis-tu ou combien d'enseignements écoutes-tu qui parlent de mariage? Non. Et vous allez voir, le séminaire là, qui parle d'objectifs et de comment préparer son année, etc. On va matraquer ça à la radio et à la télévision. Mais vous allez voir que le jour du séminaire, il y en a qui vont quand même arriver en retard. Et ils auront raté la moitié du séminaire. Et ils viendront s'asseoir, ils se seront les mains dans les poches, ils regardent, alors qu'est-ce qui se passe ici? Et l'échec est prévisible. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Voilà. Donc, c'est important de rappeler ces choses-là. Et c'est pour ça qu'on a eu à cœur de faire ce séminaire-là, dont j'invite tout le monde à être là et à inviter des amis. On a aussi le séminaire au mois de février, qui est aussi important. On va certainement en reparler au fur et à mesure. Mais tout ça, je vous assure, cette année, moi, ça m'embêterait qu'on soit ensemble dans le même bateau et l'année avance. Moi, je vois des grâces arriver dans ma vie et puis je ne vois pas les mêmes grâces arriver dans vos vies. C'est frustrant, en fait. Ce qui me rend joyeux, c'est de voir, en fait, les enfants de Dieu qui prospèrent parce qu'ils ont reçu la parole, ils la mettent en pratique et ils avancent. C'est ça qui rend heureux, en fait. Tu vois, c'est ça qui rend heureux. Si moi, je gagne au loto, 100 millions de francs CFA, et puis je viens te dire j'ai gagné 100 millions de francs CFA, est-ce que tu vas dire, oh, c'est génial? Tu vas dire, c'est génial, mais donne-moi un peu. Tu vois? Mais si je gagne 100 millions et toi tu gagnes 100 millions, tous les deux on est contents. Tu vois? Voilà. Donc, y a beaucoup de choses à faire cette année, des séminaires, on doit se préparer pour ça. Donc, on va se préparer pour ça. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi grâce surabondante? Ah, grâce surabondante. On prend nos Bibles, s'il vous plaît, dans le livre de Romains, au chapitre 5, au verset 17. Cet enseignement qu'on a ouvert mercredi soir, on a fait, on va dire, une pré-introduction. On a juste donné un aperçu de ce qui allait être dit et ce qui allait être fait durant ce qu'elle est venir. Et là, on va vraiment rentrer petit à petit dans l'enseignement. Le Seigneur nous montre beaucoup de choses par rapport à tout ça. Et moi, ce que je reçois, c'est beaucoup de choses, beaucoup d'efforts, beaucoup de choses qu'on projette de faire. Et on ne comprend pas pourquoi nos projets ne réussissent pas, pourquoi nos projets n'avancent pas. Est-ce qu'on est moins bon que les autres? Est-ce qu'on est maudit? Qu'est-ce qui ne va pas dans nos vies, etc. Et depuis plusieurs semaines, Dieu est en train de nous montrer un certain nombre de choses par rapport à sa parole. Et l'année dernière, c'était à la conquête des promesses. Et il est toujours en train de nous parler des promesses. Le Seigneur nous parle toujours des promesses parce que toute la Bible ne parle que de promesses que Jésus-Christ a accomplies. Et là, cette année, il a intitulé sa grâce surabondante. On va prendre Romains 5, 17, on va le lire ensemble. Je suppose que j'ai mis ça. Ouais, c'est là. C'est Paul qui parle. Est-ce qu'on y est? Amen. On y est? Ok. Que Dieu nous accorde la grâce de comprendre ce qu'il a à nous dire ce matin. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, dites-moi l'abondance de la grâce, et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Dites-moi encore l'abondance de la grâce et le don de la justice. J'aime bien ce verset, mais j'aime encore mieux la version parole vivante, parce qu'elle est encore plus explicite. Je la lis. En effet, si par la faute d'un seul, la mort a pu accéder au pouvoir et exercer un règne incontesté sur une humanité réduite à l'esclavage, il est d'autant plus certain que ceux qui reçoivent les trésors immenses de la grâce, dis avec moi la grâce, et le don de l'acquittement participeront au règne, dis avec moi le règne, de la vie par Jésus-Christ. Dès ici-bas, dis avec moi, dès ici-bas. Pas au ciel. Dès ici-bas. La puissance de la vie nouvelle. Dis avec moi, la puissance de la vie nouvelle. Tu vas comprendre. La puissance de la vie nouvelle dominera leur existence et jusque dans l'éternité, ils vivront en.
Roi.
Dis encore roi.
Roi.
Secoue le plafond.
Wow.
C'est ce que tu es. Seigneur, merci pour ta parole. Inspire ta parole dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je voudrais me focaliser sur ce point. Destiné à régner dans cette vie par l'abondance de la grâce. Amen. Le sujet de la grâce,
est un sujet qui est omniprésent dans la parole de Dieu. Il se présente dans le Nouveau Testament sous un autre nom que l'on appelle faveur. Dites-moi faveur. Dans l'Ancien Testament, excuse-moi. Dans l'Ancien Testament, on te parle de faveur. Dans le Nouveau Testament, on te parle de grâce. Quelqu'un me dira, mais c'est la même chose. C'est pas la même chose. La faveur aussi, c'est une grâce. Mais je vais t'expliquer la différence entre les deux. Et je vais aussi t'expliquer pourquoi Paul nous parle de grâce surabondante. Cette grâce-là qui a surabondé. La question que tu peux me poser, mais qu'est-ce que ça a à voir avec la réussite? C'est bon, Dieu nous a pardonné, on est pardonné de nos fautes, de nos péchés. Mais on bataille toujours sur terre, ici, dans la vie. Hein. Qu'est-ce que la grâce vient faire? Quel est le lien entre la grâce et puis l'épanouissement personnel dans la vie? Ce qu'on a dit mercredi, quand on a commencé à parler de ça, et ce que je dis depuis un certain nombre de semaines, vu qu'on est resté pendant près de 6 semaines sur le sujet héritier des promesses par la foi, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que notre statut de fils héritier nous donne droit à l'héritage divin. Amen. On est fils, donc nous avons droit à un héritage. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit aussi que c'est par la foi qu'on obtient cet héritage. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le miracle que l'on connaît, le miracle que l'on est censé expérimenter dans le Seigneur, ce miracle-là, la Bible nous dit dans le Nouveau Testament, au travers des discours et des expériences de Jésus-Christ, que c'est par la foi qu'on les obtient. Mais pour que le miracle puisse se produire, bien qu'on ait la foi, il faut que Dieu puisse activer ce qu'il appelle la grâce. Donc, j'ai expliqué ça pendant les 6 semaines en nous faisant comprendre que le miracle dans la vie arrive lorsqu'il y a une rencontre entre la grâce et la foi. Dis avec moi la grâce et la foi. La grâce, ce qu'il faut comprendre de la grâce, c'est que la grâce, ce n'est pas un mot. Ce n'est pas juste un mot. Ce n'est pas un concept. La grâce, ce n'est pas une idéologie. Une idéologie. Ce n'est pas une philosophie. La grâce, c'est une personne. Dis avec moi, c'est une personne. Hier, à la retraite que nous avons eue, d'ailleurs, gloire à Dieu pour la retraite que nous avons eue hier, on a passé une superbe retraite. Ceux qui étaient à la retraite disent un beau amen.
Amen.
Ah, c'était bon. Hein? Dites à ceux qui n'étaient pas là, vous avez raté. Vous avez trop raté. On est parti, ce que les Blancs appellent, à la campagne. Après, on est parti à la mer. Vous embrouillez trop avec quelque chose de la vie, des problèmes, les soucis. Laissez-les un peu, sortez un peu de Libreville. Hein? On était bien, on a passé de merveilleux temps dans la prière. On a bien mangé, grâce au merveilleux sandwich que ma femme et Madame Caron ont fait. Hein? Ma femme, oui, ok. Et après, on a passé des temps de prière, de partage, on a travaillé, hein? Et après, on s'est détendu. Hein? Tu sais, quand tu es chrétien, il faut aussi te détendre, hein? Parce que les chrétiens sont trop coincés. Trop coincés. Il y en a même qui étaient avec nous hier qui ont dit, « Oh, pasteur, je ne suis jamais venu au Cap Estérias. » Oh, au Gabon, tu viens à Libreville, tu n'es jamais venu au Cap Estérias. Ah, ça, j'ai fait un exploit aujourd'hui en t'emmenant ici. Gloire à Dieu. La grâce, ce n'est pas un concept, c'est une personne. Et je leur disais hier que parfois quand papa et maman mettent un enfant au monde, ils ont souvent du mal à trouver le nom qu'il faut à l'enfant. Alors moi je veux l'appeler Sabrina, non, moi je veux l'appeler Elodie, etc. On ne sait pas trop. Donc finalement, au bout du compte, comme on n'arrive pas à s'entendre, on décide de prendre les deux noms. Et c'est comme ça que tu retrouves, il y en a qui ont 4 noms, 5 noms, comme ma femme sur sa carte d'identité, Sabrina, Elodie, Grâce, Mapendo, tout ça. Donc tu ne sais plus, tu sais, alors que la personne toute sa vie va étudier, elle a juste un seul nom. Mais pourquoi les autres sont là? Les autres font aussi partie de son identité. Amen. De même, quand Jésus-Christ dit à Papa Père, Papa Dieu le Père et Papa Dieu le Saint-Esprit que je vais aller sur la terre, ils se sont concertés tous les trois, ils ont dit, bon, on te donne quel nom quand tu vas revêtir le corps, là.
Ok, on va te donner Yeshua. Celui qui sauve, bah, c'est évident, c'est moi qui sauve. Il n'y a personne d'autre qui sauve. Hein. Donc, on prend Yeshua. Ah, mais il en faut un autre encore. Moi, je vais t'appeler Grâce. Et le Père dit, oh, Grâce, c'est bien. Moi, je vais t'appeler La Vérité. Le Saint-Esprit dit, non, il y a encore un autre qu'il faut mettre. Le Chemin. Hein? Oui, non, il y a encore un autre. La Vie. Donc, Jésus-Christ est celui qui a la plus longue carte d'identité qui existe. Le Chemin, La Vie, La Vérité, Yeshua, Emmanuel, La Grâce, 1 Corinthiens 1:30, La Sagesse, hein? Elohim, quoi d'autre encore? Bon, on va lire ta Bible. C'est ce qu'on appelle les noms de Dieu. Mais il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms dans lequel il y a tout. Ce nom, c'est Yeshua, Jésus. C'est pour ça qu'il dit que quand vous arrivez devant le trône et que vous voulez prier, vous dites toujours Père au nom de Jésus. Parce que c'est le nom qui a autorité et qui donne accès aux promesses. Mais Jésus-Christ a un autre nom qu'on appelle Grâce. Donc la grâce, ce n'est pas juste un mot. La grâce, c'est l'identité de quelqu'un. Et c'est pour cela que toute personne dans les évangiles qui ont expérimenté une rencontre personnelle avec ce gars-là qu'on appelle la grâce, ils ont expérimenté un miracle. Et c'est pour cela que Jésus-Christ, chaque fois qu'il s'apprêtait à faire un miracle, il disait toujours qu'il te soit fait selon ta, pas la foi de Dieu, hein, ta foi. Moi, je donne la grâce. Toi, tu me donnes quoi? Tu me donnes la foi. Parce que tu sais, tout dans la vie, il n'y a rien qui est gratuit. Tout est, il y a toujours un prix. Il y a toujours un échange. Cette histoire de transaction, là, ça existe même au ciel. Et la monnaie, nous, on a, au Gabon, c'est le franc CFA. En France, c'est l'euro. Au ciel, la monnaie s'appelle la foi. Dis avec moi la foi. Tu ne peux rien obtenir sans la foi. Tout se fait par la foi. Et quand tu demandes quelque chose à Dieu, Seigneur, je veux tel miracle. Seigneur, je veux telle guérison. Seigneur, je veux telle percée. Seigneur, je veux telle opportunité, etc. Dieu dit, mais paye. Qu'est-ce que tu payes? Ben, tu sors la foi. La foi, c'est la monnaie. C'est pour cela que dans ce monde, il y en a qui ont plus d'argent que d'autres et qui obtiennent plus de choses que d'autres. Parce qu'ils ont plus d'argent. De même, dans le royaume, celui qui a plus de foi que toi, c'est celui qui expérimente plus de grâce que toi. Est-ce que je vais dire ou pas? Comprenez? On avance. Donc, le miracle dans la vie du croyant, c'est le résultat de la rencontre entre la grâce. Et Paul nous dit dans la parole que tout est grâce. Rien n'est le fruit de nos efforts. Tout ce qu'on veut expérimenter avec le Seigneur, quelle que soit la réussite que l'on veut avoir, c'est d'abord par la grâce qu'on va l'avoir. Mais le Seigneur nous appelle aujourd'hui à nous focaliser sur un point par rapport à Romains 5, 17, destiné à régner dans cette vie. Pourquoi j'ai mis destiné? Parce que quand on lit le texte, c'est le mot que Dieu utilise. Dieu n'utilise pas n'importe quel mot. Quand Dieu utilise un mot, c'est qu'il est en train de te faire passer un message. Et quand Romains 5, 17 utilise le mot régner, le mot régner, ce n'est pas n'importe quel mot, je vais m'arrêter dessus tout à l'heure. Amen. Donc, la grâce, qui est une personne, on pourrait dire que c'est exactement la même chose que la faveur. Et pourtant, il y a une différence. Et je vais vous expliquer c'est laquelle. La grâce et la faveur divine sont tous les deux des faveurs. Mais la différence, elle se trouve où? 1. Qu'est-ce que la faveur? Je vais vous donner la définition des deux, vous allez mieux comprendre. La faveur, c'est une promesse limitée dans le temps. D'accord? Pour une personne bien spécifique, à un moment bien spécifique. Amen. La faveur, quand quelqu'un te fait une faveur, il peut soit rien te demander en retour, soit il peut t'exiger quelque chose. Vous voyez? C'est comme par exemple, quand un ami vient te voir et te dit, là j'ai un problème, prête-moi de l'argent. Tu lui fais une faveur et tu lui donnes de l'argent. Tu peux lui dire, non c'est bon, ne me rends pas, ou bien tu me rends. Eh bien, la Bible nous montre que au temps de l'Ancien Testament, au temps de la loi, les hommes
devait obéir à quelque chose que l'on appelait la loi. Dis avec moi la loi. Pour avoir quoi? L'approbation de Dieu, ou bien encore la faveur de Dieu. Au risque de se faire rejeter. Pourquoi? Pourquoi les hommes dans la Bible devaient respecter absolument la parole de Dieu, la loi? Ça veut dire quoi, pasteur? Tu es en train de me dire que tous les gens qui n'étaient pas juifs n'avaient pas l'approbation de Dieu? Eh bien, quand tu lis la parole de Dieu, tu comprends que oui. Donc, tous les milliards d'êtres humains qui avaient sur la terre n'avaient pas l'approbation de Dieu? Comment est-ce possible? Eh bien, Paul nous répond. Paul nous dit tout simplement que dans Romains 3, 23, après la bêtise, la grosse bêtise de Adam dans le jardin d'Éden, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont quoi? Ils sont privés. Aucun être humain n'avait la gloire de Dieu sur la terre. Aucun. C'est ce que Adam avait perdu le plus. Qu'est-ce qui lui donnait la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, la présence du Saint-Esprit en lui. C'est ça qui lui permettait d'avoir la gloire de Dieu. La perte la plus grave qu'Adam a expérimentée après avoir péché, c'était la perte du Saint-Esprit. Dis avec moi le Saint-Esprit. La version parole vivante est encore plus explicite. Elle dit, car il n'y a aucune différence entre les hommes. Tous, sans distinction, ont péché et ont perdu la beauté glorieuse dont Dieu avait revêtu l'homme. Tous ont manqué le but qu'il leur avait assigné dans son plan. Personne ne saurait prétendre être approuvé de Dieu ni accéder à sa glorieuse présence. Amen. Donc tous les hommes avaient péché par le biais de la désobéissance d'Adam. Et le péché a entraîné cette séparation-là d'avec Dieu qui a mené aujourd'hui tous les hommes à ne plus, comment dire, à ne plus vivre selon le plan de Dieu. Les hommes étaient perdus. Maintenant, dans l'Ancien Testament, quand tu lis l'Ancien Testament, tu te rends compte qu'il y a des gens qui ont réussi à expérimenter une faveur, pas une grâce, une faveur. C'était des hommes exceptionnels. Ces hommes, on les connaît, on les appelle dans la Bible les héros de la foi. Il y avait Abraham, il y avait Isaac, il y avait Joseph, etc., etc. Pourquoi ces gens avaient des faveurs particulières? Pourquoi ces gens étaient si exceptionnels? Eh bien, parce que ces gens, sans voir Dieu, sans voir le Dieu vivant, sans connaître la loi, parce qu'il n'y avait pas de livre de Bible à l'époque, sans rien du tout, ils ont démontré à Dieu par leur comportement et leur attitude que la loi divine était déjà gravée dans leur cœur. C'est pour ça qu'ils étaient exceptionnels. C'est pour ça que quelqu'un, par exemple, comme David, était exceptionnel. Pourquoi? Parce que tout en vivant selon la loi, tout en vivant dans la loi, il se comportait comme quelqu'un qui vivait dans le Nouveau Testament au temps de la grâce. Tous les hommes ont péché. David connaissait ce verset. Il l'avait ressenti au travers de lui, que tous les hommes étaient pécheurs. Et quand il péchait, il venait, il se prosternait devant Dieu, il priait, il se levait et puis se comportait comme si Dieu lui avait pardonné. Mais qui lui avait dit que Dieu lui avait pardonné? Personne. Même le prophète Nathan n'était pas venu lui dire que Dieu t'a pardonné. Mais il se comportait comme tel et ça touchait le cœur de Dieu. Voilà pourquoi ils étaient exceptionnels. Noé, il entend un jour la voix de Dieu qui lui dit construis une arche. Par la foi, il croit que Dieu va faire. Il dit construis l'arche pendant deux à trois ans et après les choses se passent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ensuite, avec le temps, Dieu décide de révéler la loi à Moïse. Il révèle la loi à Moïse et c'est selon cette loi-là que les Juifs vont vivre. Les Juifs, pas les gens qui restent dans le monde. Tous avaient péché. Et là, le rôle en fait que Dieu avait donné au peuple juif, c'était d'aller faire connaître son nom à tout le reste du monde, à toutes les nations. Et c'est là que les Juifs ont échoué. C'est là que les Juifs ont échoué. Si les Juifs ont échoué, c'est fini, on était perdus alors. Tout le monde était perdu. Et c'est là que Dieu dit, je prends les choses en main. Moi-même, je viens. Et je vais régler moi-même le problème. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Jésus?
Gloire à Jésus.
Et ce que la Bible nous montre dans l'Ancien Testament, c'est que celui qui ne respectait pas la loi ne pouvait pas être agréable à Dieu. Celui qui ne respectait pas la loi ne pouvait pas avoir la faveur de Dieu. Et même celui qui respectait la loi ne pouvait pas la respecter en entier. Parce que personne ne pouvait
accomplir toute la loi. Ce n'était pas possible. C'est ce que la Bible nous révèle. Okay? Je prends le temps. D'accord? Parce que ce que je vais dire, c'est extrêmement important durant les semaines. Donc, c'est ça que je prends le temps. Il faut bien comprendre ce qu'on entend. Parce que ce que je suis en train de nous expliquer là, c'est toute la Bible. Amen? Donc, tous les hommes qui étaient soumis à la loi dans la Bible se devaient de la respecter de A à Z. Et tout homme, même le plus parfait, ne pouvait pas obéir à tous les commandements. Tu n'as pas remarqué que quand tu lis la loi, ce qu'on appelle l'Ancien Testament, ça te fatigue. Tu n'as pas remarqué que tu n'arrives jamais, très souvent, pas à finir tout l'Ancien Testament. Les histoires te fatiguent. Quand tu prends le livre de Lévitique ou de Deutéronome, voilà, si tu fais ci, tu auras ça. Si tu ne fais pas ça, je vais te punir comme ça. Et puis au bout d'un moment, ça te fatigue. Tu dis, bon, écoute, Dieu, si tu me pardonnes, tant mieux. Tu ne me pardonnes pas, bon, tant pis, on avance. Quoi. Moi, j'ai des situations ici. Tu vois? Et la loi, c'était ça. Mais il y a quand même des gens qui ont réussi à faire la différence. Maintenant, ce que les prophètes dans la Bible, ce qu'on appelle les prophètes, Ésaïe, Ézéchiel, etc., ce qu'eux, ils avaient reçu, c'est que on pouvait, par notre obéissance à la loi, obtenir une faveur pendant un temps, comme Élie, comme Moïse, etc. Mais ce que les prophètes, comme Moïse, etc., ont découvert, c'est que ils n'avaient pas accès à une faveur illimitée pour l'éternité. Pour la simple et bonne raison, et c'est ce que le livre de Hébreux nous révèle, que c'était des serviteurs. Hier, j'ai fait la différence entre le serviteur et le fils. Tu n'as pas remarqué que quand tu es à la maison, tu n'accordes pas la même considération à la ménagère qu'à ton enfant. Même si la ménagère reste 10 ans avec vous à la maison, elle n'aura jamais la même place que ton enfant. Jamais. Même si ton enfant a insulté comme quoi la ménagère et que la ménagère lui a mis une gifle, même si ton enfant a tort, tu ne permettras jamais à ce qu'une servante gifle ton enfant. Est-ce que c'est faux? Ah, vous ne répondez pas. Non, vous laissez les ménagères frapper vos enfants. Ah bon, bon. Jamais. Parce que ton enfant, c'est ton enfant. Quand la ménagère veut venir devant la porte de ta chambre, même pour venir cogner, c'est compliqué. Elle se met toujours pas loin de la porte et elle fait, madame, il y a quelqu'un qui vous demande. J'arrive. Oui, madame. Et puis elle repart. L'enfant, papa! Et il rentre dans la chambre. Parce que ce n'est pas la même relation. Vous voyez? Donc, les prophètes avaient compris qu'ils n'avaient pas cette relation avec Dieu. Et pour avoir cette relation avec Dieu, il fallait être considéré comme fils. Et ce que les prophètes nous révèlent, c'est que ils ont vu de très loin là, le temps là, où on devait avoir cette relation de père à fils avec Dieu, selon la grâce. Amen. Donc maintenant, la question qu'on se pose, c'est un peu des questions existentielles, si je peux dire ça ainsi. C'est comment Dieu pourrait-il laver le péché de sa créature après la désobéissance de Adam? Comment Dieu ferait-il pour rendre à l'homme son apparence? Pour rendre à nouveau l'homme semblable à lui. Comment Dieu pourrait-il changer le cœur de l'homme qui, à cause du péché, est méchant par-dessus tout? Comment Dieu redonnerait-il à l'homme la position qu'il avait en Éden, celle de régent de la terre et qu'il avait perdue? Comment Dieu ramènerait-il l'homme dans son règne? Comment Dieu redonnerait-il à l'homme la puissance qu'il avait dans le jardin d'Éden et qui lui permettait de régner sur toutes choses? Comment Dieu ferait ça? Eh bien, il y a trois personnes qui nous ont donné les réponses. La première personne, c'est Ézéchiel. Amen. C'est Ézéchiel qui nous dit dans Ézéchiel 11, verset 19, il nous dit, c'est Dieu qui parle au travers du prophète, et il est en train de parler de cette grâce à venir. « Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Dis avec moi un esprit nouveau. « J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. » Amen. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est un autre prophète qui nous la donne. Comment Dieu ferait? Là, c'est Jérémie. Jérémie nous dit dans Jérémie 31, verset 33, il nous dit, mais voici, l'alliance, dites-moi l'alliance, que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leurs iniquités. Et là, il dit quelque chose de très, très important. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Quand Jérémie annonce ça, Jérémie est nostalgique. Il est enthousiaste, mais triste à la fois, parce qu'il dit, mon Dieu, ça, je ne peux pas l'expérimenter. Il y a des gens plus loin qui vont connaître cette grâce-là d'avoir, de venir prier Dieu et d'être totalement pardonné. Eux, les deux premières réponses que je vous ai données, ce sont des gens qui n'ont pas expérimenté cette faveur particulière-là. Mais la troisième réponse vient de quelqu'un qui a donné, qui a expérimenté cette faveur-là, cette grâce-là. Il s'appelle Paul, on le connaît bien. Et c'est la suite de notre verset, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés. Par quoi ? Sa grâce. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. La version parole vivante nous dit, c'est pourquoi Dieu offre à tous un don. Tous peuvent à présent être justifiés, c'est-à-dire déclarés justes aux yeux de Dieu par pure grâce. Dis-moi, dis avec moi, par pure grâce. Ils reçoivent cette faveur comme un cadeau immérité de la générosité divine. Et cela fut possible parce que Jésus-Christ a accompli tout ce qu'il fallait pour nous libérer parce qu'il s'est donné lui-même en rançon. Amen. Ce que j'explique là, c'est hyper important. La principale raison qui fait que beaucoup de gens sont dans la défaite et la frustration dans leur vie chrétienne, c'est à cause de ça. C'est parce qu'ils ne réalisent pas du cadeau immérité que Dieu leur a donné. Paul nous donne ici une définition de la grâce, une faveur ou encore un cadeau immérité, c'est-à-dire non mérité de la générosité de Dieu. Ce qui nous amène à la définition de la grâce. Rappelez-vous, la faveur, c'est une grâce limitée dans le temps pour une personne bien spécifique à un temps bien défini. La grâce, elle, c'est une faveur illimitée dans le temps, non méritée et inconditionnelle. Elle ne demande aucun effort de notre part. Tout ce dont nous avons besoin pour être heureux sur la terre se trouve dans la grâce. C'est-à-dire, Dieu s'est levé un matin et Dieu a dit, je te bénis, c'est fini, tout ce que tu veux, tu l'as. Je ne regarde plus à tes fautes, je ne regarde plus à tes péchés. Oh, mais Seigneur, j'ai péché et puis je sens toujours la culpabilité de mon cœur. C'est bon. Écoute ce que Jérémie a dit. Je ne me souviens plus de tes péchés. Vous n'avez jamais remarqué des chrétiens qui sont comme ça, qui vivent dans la culpabilité, ils sont tout en train de demander pardon, etc. Dès qu'ils ont péché, ils se sentent frustrés. C'est comme si on dirait Dieu va les frapper du jour au lendemain. J'en connais. Des gens qui, à cause de ce qu'ils ont fait, ils vivent dans le regret, toujours nostalgique du passé, etc., etc. C'est ce qu'on appelle la culpabilité. La grâce est cette faveur illimitée, non méritée. Et cette faveur illimitée, non méritée, il n'y a que les fils héritiers dans le royaume qui peuvent la connaître. Et pour faire la différence entre ces deux faveurs, Paul a appelé une faveur et Paul a appelé l'autre grâce qui abonde, qui surabonde plutôt. Grâce surabondante. Dis avec moi, grâce surabondante. La grâce surabondante qui vient de Dieu et la promesse accomplie en Jésus-Christ, en ce sens que nous n'avons plus besoin de faire quoi que ce soit pour avoir la faveur de Dieu. Nous avons juste à faire une seule chose, croire en Jésus-Christ. C'est tout. Toute philosophie, toute croyance, toute église qui te demande de faire des efforts, de poser des actes pour avoir la faveur de Dieu, C'est la religion. C'est pas la Bible. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Vous n'avez pas remarqué que les religions qui nous entourent nous demandent tout le temps de faire plein de choses? Va te laver, fais les ablutions, et puis tu seras saint. Une fois, je me baladais avec un chien, et puis je rentre dans une boulangerie. Et puis dans la boulangerie, il y avait des gens qui faisaient la queue. Et à un moment, le chien s'en va un peu par là-bas, et puis il commence à il vient se mettre à côté d'un monsieur. Et le monsieur fait hey, ne me touche pas. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe, monsieur? Le chien vous a rien fait? Il dit, je viens de faire mes ablutions. S'il me touche, je vais être impur. J'ai dit, oh! Et moi, je lui réponds, monsieur, c'est Jésus-Christ qui vous rend pur. Il fait, non, moi, c'est Allah. J'ai dit, ok, laisse tomber. On va fermer la parenthèse. Je vais... Il y avait du monde dans la boulangerie. J'ai fait, ok, il n'y a pas de problème. Le chien ne va plus te toucher. Pour lui, le chien le touche, il devient impur. Religion. Il y a d'autres religions qui vous amène à faire des pèlerinages. Et puis on te demande de parcourir des kilomètres sur des collines et sur des cailloux sur les genoux. Tu dois te blesser les genoux, tout ça. Et puis on te demande, ça c'est quoi? Tu dis, ben je participe au chemin de croix de Jésus. Oh! Mais Jésus a déjà fait le chemin de croix. Pourquoi tu veux le refaire pour lui? Ça vous dit rien ça? Si je cite le nom là, je vais encore avoir des problèmes. Parce qu'une fois j'ai cité le nom, j'ai reçu de ces mails-là. Non, tu touches pas notre religion. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Moi, je prêche la parole de Dieu. Il n'y a pas de problème. Hein? Non. Tu dois te sacrifier, tu dois te couper, tu dois te faire plein de trucs. Tout ça. Parce que si tu fais tout ça, tu auras la faveur de Dieu. Dieu se gratte la tête hein, quand il est assis sur son trône. Hein. Il se dit, mais vraiment, mes enfants-là, où est-ce qu'ils ont appris ces choses-là? Hein? Amen. Donc, la grâce surabondante, c'est plus qu'une simple faveur. C'est une approbation infinie. Celle que le Père met sur un fils. Elle est plus qu'une faveur divine. C'est une distinction divine tellement puissante qu'elle amène la gloire de Dieu à se manifester dans ta vie. Amen. La grâce surabondante est la promesse accomplie par Jésus-Christ. Et elle nous permet, c'est elle qui nous permet de régner dans la vie. Dis avec moi, je suis destiné à régner.
Je suis destiné à régner.
Tu es destiné à régner dans cette vie-là. C'est ce pourquoi Dieu t'a appelé. C'est pour ça que Dieu t'a créé. Et cela fait partie de notre nature, de ta nature, la nature divine, celle qui est en toi par le Saint-Esprit et celle qui t'amène à régner. Quel que soit ce que tu fais, quel que soit ce à quoi tu es destiné, Dieu dit que tu es appelé à briller et à régner. C'est ce pourquoi tu as été créé. C'est pour ça que Dieu n'utilise pas n'importe quel mot. Pourquoi Dieu va utiliser un autre mot si ce n'est pas le bon mot? Et quand tu commences à annoncer ce message aux chrétiens dans l'église, c'est difficile à recevoir comme message. Parce que quand on parle de règne, on parle de domination. On parle de régir la terre. Régir les circons. On dit, mais je vais régir quelle terre là? Moi, je vis en Gondje ou dans mon Okala. Je vais régir qui? Je vais régir quoi? Le problème, c'est que tu n'as pas compris qui tu es. Amen. Et c'est pour ça que tu as été créé. Tu as été créé pour connaître le succès sur la terre. Dis avec moi le succès. Pas la défaite. Tu as été créé pour connaître l'abondance, la richesse, la joie, la paix et la victoire. Dis avec moi la victoire. Et tous ces attributs sont le propre d'un roi. Pas d'un esclave. C'est pour cela qu'il nous dit qu'ils régneront. Tout à l'heure, il nous a dit qu'ils régneront pour l'éternité en roi. C'est comme ça que la Bible nous appelle. Et un chrétien qui vit sur la terre, dans la défaite, dans la maladie, dans le manque, dans la souffrance, dans la précarité, dans le doute, dans la peur, dans le stress et la frustration, est un chrétien qui est un roi ignorant, aveuglé par son ignorance et par Satan. Est-ce qu'on me suit? C'est pour ça que Dieu nous dit au travers de la bouche de Osée, le prophète, il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque quoi?
La connaissance. Vous savez c'est quoi la connaissance? Vous vous rappelez la connaissance, c'était quoi? La connaissance est la clé des clés dans le royaume. C'est la clé des clés dans le royaume. C'est la clé qui ouvre nos yeux sur la vérité divine et nous conduit à l'intelligence et la sagesse divine. Sans la connaissance de la vérité, on ne peut pas entrer en possession de notre héritage en Christ ou bien des promesses divines. C'est pour cela que le renouvellement de notre intelligence est très, très, très important. C'est pour cela que quand tu viens dans le royaume, la première chose que Dieu attaque, c'est ta mentalité. Et Paul nous dit, Paul rajoute dans Romains 12, 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. » Catartizo, dis-moi catartizo. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Peu importe ta vocation dans la vie, peu importe ton appel, peu importe ce à quoi tu es destiné à briller. Dis avec moi, je suis destiné à briller. Tu es destiné à briller. Tu n'es pas destiné à souffrir, à vivre en dessous des standards de Dieu. Dieu est roi. Si Dieu est roi et que tu es son fils, mais tu es appelé à briller. Même l'enfant dit amen. Peu importe ta vocation dans la vie, c'est ce à quoi tu es destiné. Donc, si Jésus-Christ est Seigneur dans ta vie, tu es Seigneur. Tu n'es pas esclave. C'est pour ça que Salomon nous dit dans Ecclésiaste, il dit, j'ai vu une chose infâme sous le soleil. J'ai vu des esclaves marcher sur des chevaux comme des rois. Et j'ai vu des rois marcher à terre comme des esclaves. Et pourquoi il dit ça? Parce que tout simplement, les esclaves, l'esclave, c'est celui qui ne connaît pas Dieu. C'est celui-là qui est esclave. Esclave de qui? Esclave du diable. Mais celui qui est en Christ, qui est dans le royaume, il ne peut pas vivre comme un esclave. C'est pour ça que depuis le jour où j'ai compris ça, un jour j'étais dans ma chambre et puis je me suis mis à crier « Oh chérie !» Elle me dit « Il y a quoi ?» J'ai dit « Je ne serai plus jamais pauvre !» Je ne peux pas être pauvre dans la vie. Si je meurs pauvre sur cette terre, Seigneur, j'ai péché. Après avoir compris ça, tu meurs pauvre. Non, ça c'est pas bon quand même. Tu sais, moi je refuse la pauvreté. Quand tu dis je refuse la pauvreté là, faut être à l'aise avec la richesse. Hein. Sois à l'aise avec ça. Tu ne peux pas obtenir quelque chose dans la vie auquel tu ne crois pas. Quelque chose que tu refuses. Dieu ne peut pas te le donner. Hier, j'étais en train de parler des objectifs et puis je leur ai dit, la maison du bâtisseur, par le biais de réussir avec Dieu, on aura une chaîne de télévision. Il nous faut 150 millions. Et là, il a fait, oh. J'ai dit, si 150 millions te choquent, tu n'auras jamais 150 millions. Sois à l'aise avec ça. Il faut être à l'aise avec ça. Il dit, mais moi, je suis étudiant, je n'ai pas encore fini mes études. Sois à l'aise. Le gars qui a créé Facebook, il était encore étudiant. Il est devenu multimillionnaire, il n'avait même pas encore fini l'école. Juste parce qu'il a eu une idée. Vous voyez ce que je veux dire? Sois à l'aise avec ça. Sois détendu. Avant que la chose arrive et que tu en prennes possession, commence déjà à te comporter comme si tu avais ça. Vous savez, je vais vous raconter un truc, ce que j'ai fait un jour. J'étais à Paris, j'avais compris ça. Et je rentrais du travail et je méditais sur ça. J'ai dit, Dieu, le Seigneur me dit, commence à te comporter d'abord comme si tu avais ça. Ok. Et puis j'étais en train de rentrer, j'étais à Châtelet. Ceux qui vont à Paris connaissent Châtelet. Et puis, j'ai dit, ok, je me suis arrêté à l'arrêt, la Concorde. Je suis descendu. Et puis quand je suis descendu, je suis sorti, j'ai regardé l'hôtel Le Crillon. J'ai dit, je rentre là-bas. C'est pas n'importe quel hôtel à Paris. C'est l'un des hôtels les plus luxueux. Je suis rentré là-bas. Quand je rentre, bonjour monsieur. J'ai dit, s'il vous plaît, c'est où le salon VIP? C'est par là-bas, monsieur. Je suis parti au salon VIP. Il y avait un rideau. C'est pas moi qui ouvre le rideau. Il y avait quelqu'un habillé bizarrement avec un chapeau sur la tête. Il m'a ouvert le rideau. J'ai dit, c'est bon. Ça, il me faut ça tous les jours. Tu vois, c'est pour ça que nos politiciens, là, ils ne veulent pas quitter quand ils ont des postes. Là, ils aiment trop ces choses-là. Tu vois, non? Parce que c'est bon.
Dis avec moi, c'est bon. Donc, le gars m'ouvre la porte, le rideau. Et puis, je rentre. Tout d'un coup, les lumières sont tamisées, noires. Ça sent bon. Il y a une musique douce, agréable. Et puis, il y a quelqu'un qui fait, « Monsieur, suivez-moi, s'il vous plaît. » Et puis, il dit, « Vous êtes seul ou bien avec quelqu'un ?» J'ai dit, « Je suis tout seul. » « OK. Vous voulez vous asseoir là ?» Je dis, « Non, je veux le salon qui est là-bas. » Je me mets sur le salon. Quand je m'assois, le Seigneur me dit, « Croise les gens. » Je croise les gens. Et puis, quand je m'assois, je suis tout seul. Il y avait des gens qui étaient là, essentiellement des blancs, au nom de Jésus. Il y aura plus de noirs à l'avenir. Et puis, les gens qui étaient là me regardaient. Bizarrement, ils m'ont jeté des regards. Ils ont dit, ah, ça c'est qui? Parce qu'il y avait des Saoudiens, des gens avec lettres, tout ça. Les gens soi-disant dans ce monde qui ont l'argent. Et puis moi, on voit un jeune habillé simplement avec son jean. Je viens, je m'assois. Et puis un monsieur vient. Monsieur, qu'est-ce qu'on vous sert? J'ai dit, je voudrais juste un jus d'orange. Et, d'accord, monsieur. Le jus d'orange qui t'a amené, c'est le meilleur jus d'orange que j'ai mangé de toute ma vie. Toute ma vie, j'ai jamais vu un jus d'orange aussi bon. J'ai pris le jus d'orange. Tu vois, quand tu prends le jus d'orange que tu achètes chez le maire, tu descends ça vite. Ça, c'est la petite goutte. Ok, tu poses le verre. Tu dégustes. Le Seigneur me dit, déguste, parce que c'est ce que tu as appelé à vivre demain. Moi, j'ai dégusté parce que je savais que le prix qui allait arriver après... Donc, j'ai mis une heure pour descendre le jus d'orange. Je suis resté là, je sortais mes livres, je lisais, je faisais genre, tu vois. Je disais, mais reste là, faut que tu sois là. Pourquoi tu... Il y a des gens, dès que tu les mets dans les endroits, ils sont complexés. Non, sois à l'aise. Je suis resté là pendant une heure. Et puis, toutes les 5 minutes, monsieur, vous voulez quelque chose d'autre? Non, au bout d'une heure, je dis, l'addition, s'il vous plaît. Et tu vois, c'est même le ton de la voix doit être adapté à l'environnement. Quand tu as besoin d'appeler le serveur dans ton maquis, oh, viens là, elle te fait, attends, oh. Là-bas, tu ne fais ça, là-bas, tu ne lèves pas la main, tu fais juste ça. Le monsieur te voit, il a court. Oui, monsieur, c'est bon, dis-moi, c'est bon. Et à la fin, il m'emmène l'addition du jus d'orange. 15 euros, 10 000 francs. Tu vas dire, oh, 10 000 francs d'heure de jus d'orange. Là, tu n'as pas vu l'environnement dans lequel j'étais. Donc, quand je sors les 15 euros là, comme je n'avais pas beaucoup d'argent, ça faisait mal. Tu vois. Je sors les 15 euros, le Seigneur me dit, sois à l'aise. Car c'est ce à quoi je te destine. Tu me diras, la destinée, ce n'est pas seulement l'argent et vivre dans le... Ce n'est pas ça seulement. Il y a aussi des choses spirituelles. Amen. Mais ça fait aussi partie de l'héritage. Donc, sois à l'aise avec ça. Dès que moi, je ne serai jamais pauvre. Si le Seigneur nous donne des messages comme ça aujourd'hui, c'est parce qu'il veut qu'on arrive à ça demain. Amen. Un jour, il y a un pasteur qui a dit, ton pasteur est un aperçu à avoir impression de ce que tu as appelé à devenir demain. Donc, si moi, je suis déjà dans cette direction-là, il faut que tu suives aussi. Hein?
Amen.
Ah oui, hein? Au nom de Jésus. Amen. Donc, peu importe ta destinée, tu es destiné à vivre cela. Donc, pour finir, parce qu'on ne peut pas tout dire aujourd'hui, la question qu'on peut se poser par rapport à ce verset, notre verset de base, c'est si on doit régner, si on doit connaître le succès, si on doit connaître, on doit réussir dans la vie. La question c'est, Seigneur, comment? Eh bien, Paul nous donne la réponse ici. Avant de te plonger dans toutes ces choses-là que le monde appelle le développement personnel, le succès, etc., parce que quand tu vas dans les librairies, païenne, non chrétienne, ils en ont beaucoup des bouquins qui te parlent de développement personnel, de succès, tu vas réussir, tu as la vision, tout ça. Donc je te dis, mais j'ai pas besoin de la Bible, alors si je peux réussir avec tout ça. Eh bien, dans le royaume de Dieu, on commence pas par ça. Parce que dans le monde, tous ces bouquins qui te parlent de succès sont remplis de principes et de conseils qui te demandent très souvent de faire des choses. Alors que dans le royaume, avant de commencer à faire des choses, tu embrasses d'abord la grâce. Dans le monde, on te dit, Aujourd'hui, tu n'as pas ces choses, mais si tu fais ça et ça, et si tu te comportes comme ça, si tu adoptes telle attitude, tu auras le succès. Dans le royaume, on te dit, tu n'as besoin de ne rien faire. Tout ce que tu as à faire, c'est de croire en Christ. Bien entendu, il faut croire au principe. Bien entendu, il faut travailler. Bien entendu, il faut avoir une vision dans la vie. Bien entendu, il faut avoir des projets, il faut travailler, etc. Mais la différence entre le païen et toi, c'est que le païen considère qu'il n'a pas encore ça et qu'il faut qu'il fasse des choses pour l'avoir. Toi, la différence, c'est que tu dis, par la foi, je l'ai déjà. C'est la différence entre le païen et toi. Donc lui, tant qu'il n'a pas, il est frustré. Toi, même si tu n'as pas aujourd'hui, tu es à l'aise. Parce que la foi dit que tu l'as déjà. Amen. Et Paul nous donne la solution ici en disant que si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent, vie avec moi, reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Le mot régner ici vient d'un mot qu'on connaît bien, que ceux qui ont fait les cours fondements connaissent bien. C'est le mot basileia ou bien encore basileo qui veut simplement dire dominer ou bien encore régner. Régner en tant que qui? En tant que roi. Et si aujourd'hui, tu mènes une vie qui ne correspond pas à ce que la parole de Dieu dit, alors ça veut dire que tu ne règnes pas. La particularité avec le règne dans la parole de Dieu, c'est qu'on n'exerce pas notre règne en tant que roi sur des gens. C'est pour ça qu'il y a des gens sur cette terre qui ont mal compris ce que Dieu avait dit et qui ont cru qu'il fallait aller dominer les autres. C'est ce qui a donné naissance à l'esclavage. Et ce que on nous enseigne dans la parole, ce que Dieu nous enseigne dans la parole de Dieu, c'est que ce à quoi nous sommes destinés, c'est la domination. Le païen aussi croit aussi à la domination. Mais la différence entre lui et toi, c'est que toi, tu ne domines pas par la force, par tes efforts, ou bien par autre chose, tu domines par la grâce de Dieu qui repose sur toi. Amen. Et c'est sur la base de la parole de Dieu que je dis ces choses. Ce n'est pas des choses qui sont faciles à dire, mais c'est pourtant ce qu'il faut dire. Le premier secret pour régner dans la vie, selon ce que Paul nous dit, c'est de recevoir l'abondance de la grâce en Jésus-Christ. Le deuxième secret, c'est de recevoir le don de la justice. De quel don de la justice on parle ici? Eh bien, c'est de celui dont il parlait dans Romains 3, 23, quand il dit, nous sommes justifiés. C'est-à-dire, Dieu nous regarde et il dit, je ne me souviens plus de tes fautes et de tes péchés. Tu as mon approbation totale. Voilà, au nom de Jésus-Christ. Recevoir veut simplement dire accepter. Accepter. Il y a une différence qu'il faut faire entre deux mots, c'est recevoir et accomplir. Le non-croyant, le païen, lui, il pense accomplissement dans la tête. Parce que quand on parle d'accomplissement, on parle de faire des choses. En 2015, je vais devoir faire ça, pour avoir ça. Le croyant, il commence en disant, 2015, Seigneur, je le possède déjà au nom de Jésus-Christ. Donc, il y a une différence entre recevoir et accomplir. Et le problème avec nous dans l'église, c'est qu'on fonctionne plus selon l'accomplissement que selon le recevoir. Amen. Et dans le royaume de Dieu, justement, on ne force pas, on reçoit. Dans le royaume de Dieu, on n'accomplit pas, on reçoit. On reçoit d'abord et ensuite on travaille. Dans le monde, on travaille et ensuite on reçoit. Dans le royaume, on reçoit d'abord. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la différence entre les deux. Le succès dans la vie, selon Dieu, n'est pas le fruit de tes efforts. Bien que connaître les clés soit importante, c'est le fruit de la grâce. Les hommes dans le monde veulent accomplir beaucoup de choses. Nous, ce qu'on doit toujours chercher, c'est la grâce. C'est pour cela que Paul, quand il a compris cela, il dit dans Romains 9, au verset 16, une parole que je ne comprenais pas pendant longtemps. Et maintenant, je comprends mieux pourquoi il disait ça. Paul dit, ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Il reconnaît qu'on court aussi. Il reconnaît qu'on veut aussi. Mais c'est d'abord la miséricorde ou encore la grâce. Parole vivante dit, ce que tout le monde cherche dans l'église, ce pourquoi les gens font faire les croisades avec des prophètes, des croisades avec des ceci, des croisades avec des apôtres, etc. Tout le monde cherche ça. Les bénédictions. Les bénédictions de Dieu ne dépendent donc pas de nos efforts. L'homme a beau vouloir les acquérir et faire tout son possible pour les avoir, c'est pour ça que tu transpires autant, tout découle de la compassion divine. J'ai rencontré des gens, par exemple, ça fait des années qu'elle est là, elle veut se marier. Au bout d'un moment, elle se rend compte que, elle, après avoir fait 3 églises, elle ne se marie toujours pas. Après s'être pomponnée, je ne sais pas comment, avoir acheté tous les vêtements possibles, après avoir été invitée au restaurant par des hommes, etc., elle se rend compte qu'elle ne se marie toujours pas. Et au bout d'un certain temps, elle va voir ses copines, et ses copines disent, oh, tu sais, tu as déjà 26 ans, 27 ans, 28 ans, après 25 ans, là, c'est compliqué. Hein. Tu sais, oh oui, pareil, au parti de 30 ans, la ménopause, c'est plus trop ça, tu auras des problèmes pour avoir les enfants. Hein. Oh, tu sais. Fou, plein de trucs dans la tête qui elle commence à frustrer, à stresser. Je ne suis pas mariée. 99 ans, non, 75 ans comme ça. Non, j'ai 30 ans. Je ne suis toujours pas mariée. Oh Seigneur, comment je fais? Oh Seigneur, je ne suis pas mariée. Oh Seigneur, j'ai pas l'enfant. 31 ans, 32 ans, 33 ans, 34 ans, 35 ans, 40 ans, 50 ans. Oh, j'ai pas l'enfant. Tu stresses. En fait, c'est ton stress là qui bloque la grâce. C'est ça qui fait que le mariage n'arrive pas. Parce que quand Dieu te regarde, il voit qu'il n'y a pas la foi. Et il ne peut pas activer la chose. Alors que la femme qui a la foi, elle dit, hey, Dieu, c'est toi. Si tu veux avoir un Isaac ici sur la terre là, après moi, là, donne l'enfant, hein, s'il n'y a pas dans, c'est ton problème. Une fois, il y a une dame, je lisais une histoire dans un livre, il y a une dame, elle était riche, chrétienne, et puis elle rentre chez elle un jour, et puis elle voit que les cambrioleurs sont venus chez elle, et ils ont volé du matériel vraiment important. Ils sont allés dans sa chambre, et ils ont forcé le coffre, et ils ont pris tous ses bijoux, etc. Et ça valait des millions d'euros. Donc ils ont fait venir la police, tout ça, elle a porté plainte contre X, etc., etc. Mais elle rangeait là tous les affaires qu'ils avaient renversées partout par terre. Toute seule, elle remettait tranquillement, elle nettoyait. Et puis les policiers la regardaient intriguant, disaient, mais la go là, on vient de lui voler je ne sais pas combien de choses. Regarde son attitude, elle est comme si on dirait que rien ne s'était passé. Et puis un policier demande, mais madame, on vous a cambriolé, vous êtes consciente de la somme qu'on vous a dérobée? Elle dit, mais monsieur, ce n'est pas à moi qu'ils ont volé, c'est à Dieu. Elle dit, oh, c'est là, c'est encore une chrétienne qu'on a. Monsieur, c'est à Dieu qu'on a volé. Et si Dieu veut récupérer ses affaires, eh bien, il va aller les récupérer. Moi, je ne suis qu'une intendante de ses affaires, et puis il m'a fait grâce, et j'ai reçu, et puis si celui qui a donné, il a donné, s'il a repris, il a repris. Voilà. Donc, ils ont volé. C'est pas pour ça que je suis pauvre, hein, j'ai encore beaucoup d'argent, et je peux encore m'en racheter d'autres. Voilà. Mais ça, en tout cas, ceux qui ont volé ça, c'est à Dieu qu'ils ont affaire. Quelques jours plus tard, les voleurs en question... sont venus, ils ont remis les affaires. On ne sait pas pourquoi ils ont remis, mais ils sont chez eux. Elle est juste revenue là retrouver les affaires comme ils avaient trouvé. Elle a dit, ah, on dirait que tu es parti régler leur compte là-bas, parce que sa parole de foi là, qu'elle avait été lancée dans l'air, les voleurs n'ont pas trouvé la paix, je ne sais pas, mais ils ont juste ramené les affaires. Ah, le jour où on te vole quelque chose, fonctionne comme ça avec le Seigneur. Tu vas voir ce qu'il va faire dans ta vie. Amen. Donc, ça ne dépend pas de nos efforts. L'une des principales raisons qui fait que beaucoup d'entre nous, on abandonne la main du Seigneur, pour lesquelles on est souvent frustré, etc., c'est parce que tout simplement, le plus souvent, on n'obtient pas de résultats. On s'efforce, on fait plein de choses, mais on ne voit pas les résultats arriver. Et c'est ça qui fait qu'au bout d'un moment, on fatigue. Il y en a qui viennent à l'église tout le temps, ils viennent à l'église, ils voient que sa vie ne change pas, et puis ils disent, ah, ça sert à rien que j'aille à l'église. Ils se lèvent le matin, pourquoi je dois quand même aller à l'église? Je préfère aller me balader là, en bolo, et puis voilà. Ou bien je vais aller voir ma mère, ou bien je laisse l'église, je laisse la main de Dieu, je ne lis plus la Bible. Digne de moi, on se lève, ça fait 2 mois que tu ne lis plus la Bible le matin. Ça ne te fait plus rien, ça ne te dit plus rien. Parce que tout simplement, tu n'obtiens pas de résultats. Et Jésus-Christ, pourtant, nous dit que celui qui prie, et celui qui est censé avoir les résultats, s'il a la foi. C'est parce qu'il nous dit. Il nous dit ça dans Marc 11, 23. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive. Il prie. Et au moment où il prie, il n'a même pas fini de prier, il croit déjà que ça arrive. Pas que ça arrivera. Le païen qui est dans la religion, qui va se mettre devant les murs de lamentation ou bien devant telle ou telle église, etc. Quand il prie espérant que ça va arriver. Le fils héritier, quand il demande quelque chose à Dieu, il sait que bah, Dieu va le faire. C'est pour ça que quand tu dis à ton enfant, elle te demande quelque chose et tu lui dis, oui, je vais t'acheter ça, elle t'embête plus de la journée. Parce qu'elle sait que tu vas lui acheter ça, n'est-ce pas? C'est la même chose avec Dieu. C'est ça la différence. Il dit dans la version parole vivante, je vous assure que si quelqu'un dit à cette colline, soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il n'a aucun doute dans son cœur, mais que sans la moindre hésitation, il croit, dis moi, il croit que ce qu'il dit se produira, il verra la chose s'accomplir. C'est pourquoi je vous déclare, lorsque vous demandez quelque chose dans vos prières, quoi que ce soit que vous demandez, croyez que vous l'avez déjà reçu et cela vous sera accordé. Amen. Donc la question qu'on peut se poser, mais pasteur, pourquoi depuis que je prie, depuis que je me consacre, pourquoi après tous ces temps de prière et de jeûne, il n'y a toujours rien qui arrive? Eh bien, il y a trois raisons. Dis avec moi trois, et je termine par là. Soit tu n'as pas suffisamment de foi, alors tu dois augmenter ta foi. Soit ce n'est encore pas le temps de Dieu. Ta prière est bonne, mais ce n'est pas encore le temps de Dieu, donc patiente. Soit, comme dit Jacques, tu pries mal. Jacques dit, Jacques 1, verset 6 à 7, il faut toutefois, version parole vivante, qu'il la demande avec foi, dis avec moi la foi, et confiance sans douter, car celui qui hésite ressemble aux vagues de la mer agitées et ballottées par le vent. Qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur. C'est un indécis au cœur partagé, instable dans sa conduite, il sera inconstant dans toutes ses entreprises. Et il rajoute, Jacques 4, verset 3, « Vous convoitez quantité de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Vous haïssez à mort, vous vous consumez en jalousie et envie, et pourtant, vous n'arrivez à rien. Alors vous bataillez et vous vous disputez, mais vous n'obtenez rien. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas demander à Dieu. Ou bien lorsque vous demandez, vous n'êtes pas exaucé parce que vous priez dans de mauvaises intentions. Vous ne cherchez qu'à satisfaire votre désir insatiable de plaisir. » Et souvent nos prières sont conduites par ces choses-là, sans qu'on s'en rende compte. Et quand on prie comme ça, quand on dispose nos cœurs de cette manière-là, alors ce qui se passe, c'est que la grâce est stoppée et rien n'arrive dans notre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Amen. Donc, pour conclure, bien sûr qu'il faut travailler. Bien sûr qu'il faut faire des projets. Bien sûr qu'il faut se fixer des objectifs. On va avoir un séminaire le 17. Bien sûr qu'il faut, être discipliné dans la vie. Bien sûr. Mais la différence avec le non-croyant, c'est que nous, dans le royaume, en tant que fils héritiers, on croit que Dieu nous a déjà donné ces choses-là parce que c'est ce pourquoi nous avons été créés. Quelqu'un qui est malade aujourd'hui, tu n'as pas besoin de faire d'efforts pour avoir la guérison. Crois que Dieu te guérit aujourd'hui. Crois par la foi, sans douter. N'hésite pas. Crois juste. Et quand tu crois et que tu reçois dans l'esprit ta guérison, tu commences à mettre ta foi en action. Comment tu mets ta foi en action? Tu commences à agir comme si tu étais quelqu'un de guéri. La femme, tu es là depuis. Vous êtes marié. Vous voulez avoir un enfant et depuis l'enfant ne vient pas. Comment agir? Vous croyez, vous avez prié. Vous avez prié, vous avez jeûné. C'est bon, vous avez prié. Dieu a entendu. Croyez que l'enfant est déjà là. Quand un enfant, quand une femme est enceinte et que l'enfant doit arriver au bout de quelques mois, qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à se préparer, non? On commence à préparer la chambre, on commence à préparer le berceau, on va acheter les bêtes, tout ça. Commence à te comporter comme ça. Va dans les magasins, fais les courses avec ton mari. Vous achetez déjà tout ce qu'il faut. Il y a même des gens qui vont jusqu'à mettre des chambres des gens en rose. Mais qui vous dit que c'est une fille qu'on a? Nous, on a demandé à Dieu une fille. On sait qu'il va nous donner une fille. On met la chambre en rose. Voilà. Si vous voulez avoir une fille, vous mettez la chambre en rose. Tu mets déjà les coussins bien, tu ajustes tout, tout, tout. La nuit, tu mets un peu de musique. Tout ça. Comme si l'enfant était là. Et puis tu dis, Seigneur, maintenant on l'attend. Qu'il arrive maintenant. Après, vous continuez à travailler. Amen. Donc, bien entendu qu'on doit faire des choses. Mais tout ce qui concerne l'épanouissement personnel, la paix, la prospérité, le bonheur, le succès, tout ça, c'est déjà disponible. Dieu a déjà tout donné. Et de là, quand tu comprends ça,
De là, tu as juste en toi un sentiment de reconnaissance et de gratitude envers Dieu. Tu n'es plus frustré, tu n'es plus stressé parce que tu sais que Dieu a déjà fait. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pour cette nouvelle année, je voudrais maintenant que tu te lèves avec moi. Et toi et moi, on va faire ensemble une prière. Ce que j'appelle une prière prophétique. Tu vas prophétiser sur ta vie. Je voudrais que quand tu feras cette prière, que tu y crois. Hein? Que tu y crois de tout ton cœur. Dans cette prière sont énumérées des promesses, pas qui sont à venir, des promesses qui sont déjà accomplies en Jésus-Christ. Et parce que tu reçois ces prières aujourd'hui, ces promesses aujourd'hui, alors tu fais cette prière avec foi et avec conviction. Amen. Dis avec moi, Père éternel,
Père éternel,
dans le nom de Jésus-Christ,
dans le nom de Jésus-Christ,
je suis béni
en Jésus-Christ.
Je règne dans cette vie.
Je règne dans cette vie.
Par ta grâce
surabondante
en Jésus-Christ.
Je refuse la
défaite.
Je refuse le manque,
la pauvreté et la précarité
dans ma vie,
au nom de Jésus.
Je rejette la peur
et je suis rempli d'assurance
par la grâce de Dieu.
Je réussis
et je prospère
dans tout ce que je fais.
Cette année 2015
est pour moi une saison
de 365 jours
de grâce
surabondante
dans ma vie.
Je règne sur la maladie
et la guérison
et la santé divine
sont mon partage
au nom de Jésus.
Aucune maladie
ne m'atteint
car la grâce surabondante
de Dieu en Jésus-Christ
remplit chaque particule de mon corps.
Au nom de Jésus,
je suis guéri.
Je suis guéri.
Je suis guéri.
Au nom de Jésus,
je règne sur le stress,
sur les oppressions démoniaques.
Le diable n'a aucun pouvoir sur moi.
Aucun.
Par la grâce de Dieu,
par la grâce toute puissante de Dieu,
je règne sur le diable
et sur tous ses démons.
Au nom de Jésus,
aucun plan satanique
n'a d'effet sur moi,
car la grâce surabondante
de Dieu me protège.
Elle m'environne
comme d'un bouclier.
Par la grâce surabondante de Dieu,
je suis béni
dans tous les domaines de ma vie.
Je prospère
et je ne manque de rien
parce que Christ
s'est fait pauvre
de riche qu'il était
pour que je sois enrichi.
Alors je suis béni financièrement
par la grâce surabondante de Dieu
parce que l'Esprit de Dieu
habite en moi.
Par la grâce surabondante de Dieu,
je suis divinement intelligent.
Je suis rempli de sagesse divine.
Au nom de Jésus,
je suis béni de Dieu.
Ma famille est bénie de Dieu.
Mes enfants sont bénis de Dieu.
En Jésus-Christ,
par la grâce de Dieu,
je règne sur la terre.
Je brille sur la terre.
J'impacte positivement mon environnement.
Au nom de Jésus.
Et par la grâce surabondante de Dieu,
ma vie est
un témoignage magnifique
de la révélation de Jésus-Christ
à tous ceux qui ne le connaissent pas.
Merci Seigneur,
parce que tu as accompli
toutes ces paroles
dans ma vie.
Aujourd'hui,
je le crois,
je le confesse,
je le déclare,
je le décrète
et je le reçois
maintenant
au nom de Jésus-Christ.
Amen,
amen,
amen.
Nous espérons que vous avez été richement édifiés par cet enseignement. Pour plus d'informations au sujet de l'église La Maison du Bâtisseur, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Si vous désirez avoir d'autres produits enregistrés à La Maison du Bâtisseur, vous pouvez soit commander directement en ligne ou téléphonez-nous au 04 65 60 56 ou envoyez-nous votre demande par email à l'adresse suivante contact@lamaisondubâtisseur.com. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.